On commence par le journal d'Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Emmanuel Macron devant le Parlement réuni en congrès à Versailles. Il présente sa feuille de route pour le quinquennat, exercice inédit en début de mandat et boycotté par plusieurs députés qui dénoncent une dérive monarchique. On retrouvera sur place Stéphane Robert. En Allemagne, Angela Merkel lance aujourd'hui sa campagne pour un quatrième mandat. La chancelière part favorite pour ce scrutin de septembre. Correspondance de Cyril Sauvageau. Le groupe français Total, premier groupe pétrolier occidental à revenir en Iran depuis l'accord nucléaire conclu en juillet 2015. Il signe un accord donc de près de 5 milliards de dollars pour développer un important champ gazier, précision avec Hakim Kasmi. La crise diplomatique entre le Qatar et ses voisins sunnites. L'ultimatum de 10 jours qui avait été fixé par l'Arabie Saoudite a expiré hier, mais Doha continue apparemment de rejeter implicitement la plupart des demandes de ses adversaires, notamment la fermeture d'Al Jazeera et d'une base militaire turque, ainsi que la réduction de ses relations avec l'Iran. On sera en ligne tout à l'heure avec Antoine Basbous pour en parler. Un très grave accident d'autocar de tourisme en Bavière, au moins 18 morts piégés par les flammes et une trentaine de blessés. L'invité de la séquence interview, Jean-Louis Debré, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président du Conseil constitutionnel et auteur d'un dictionnaire amoureux de la politique édité chez Plon dans la grande table d'été après le journal Olivia Jesbert.
C'est l'été en effet, France Culture se met à l'heure d'été. Ça veut dire qu'on se retrouvera tous les jours à partir de 12h55, quand je dis tous les jours, c'est du lundi au vendredi jusqu'à 13h50. Une grande table typiquement, spécialement et simplement culturelle et artistique tout au long de l'été jusqu'à la fin août. Aujourd'hui, portrait et rêve avec Winsor McCay, un grand illustrateur américain à qui Cherbourg rend hommage dans une exposition rétrospective. Et puis également invité de cette première grande table de l'été, la romancière Simone Schwarzbart qui sera avec nous dans la première partie de l'émission.
A tout à l'heure Olivia. Emmanuel Macron s'exprime donc devant le Parlement réuni en congrès tout à l'heure à 15h. Le chef de l'État s'adressera pendant près d'une heure aux deux chambres. Donc, selon l'Élysée, ce sera l'occasion de livrer sa vision du mandat qui s'ouvre, d'évoquer son action, les défis qu'il entend relever, mais aussi sa lecture des institutions. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour Antoine.
Vous êtes en direct avec nous depuis Versailles déjà. On sait que les mélenchonistes, les communistes ont décidé de boycotter la séance, aussi d'ailleurs certains UDI. Comment se présente l'après-midi ?
Eh bien, on a une première prise de contact qui va démarrer là, à la mi-journée, puisque le président de la République déjeune avec les présidents de groupe du Sénat et de l'Assemblée, hormis bien sûr ceux qui ne sont pas là, notamment Jean-Luc Mélenchon. Ensuite, ils se rendront tous dans la salle du Congrès où Emmanuel Macron prendra la parole pour environ une heure. Ça doit démarrer a priori vers 15h. Ensuite, il s'en ira et une fois qu'il sera parti, ce sera au tour des présidents de groupe de s'exprimer, une dizaine de minutes pour chacun environ.
Alors on attend évidemment des explications sur la fameuse vision qui correspond selon l'entourage du président à la pensée complexe d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État doit fixer des priorités pour son quinquennat. Nous sommes, on le sait, à la veille de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Alors la question se pose évidemment de savoir quel espace il laissera au chef du gouvernement.
Eh bien, ça a l'air d'être assez clair, hein, à la fois dans l'esprit du président et dans celui du chef du gouvernement. Certes, il y a l'affirmation de la prééminence présidentielle par rapport au Premier ministre, mais aucun d'eux n'empiète et n'empiétera sur le rôle de l'autre, nous assure-t-on, tant du côté de l'Élysée que de Matignon. Emmanuel Macron, cet après-midi, devrait dresser une sorte de bilan de l'état du pays et puis donner les grandes orientations de sa politique à travers lesquelles doivent apparaître la vision et le cap. Pour le Premier ministre, ce sera la mise en musique de cette vision et de ce cap. On peut faire peut-être une comparaison avec la manière dont on dirige une entreprise, avec la notion managériale de répartition des rôles, chacun à son niveau, avec un Emmanuel Macron en super PDG qui détermine une ambition et un cap à long terme, et puis un Édouard Philippe en DG, directeur général, chargé de répercuter concrètement et de façon verticale la vision du président. Et en même temps, on peut dire qu'Emmanuel Macron est en train de construire ou de reconstruire une véritable symbolique autour de la présidence, en théorisant et en organisant cette rareté de la parole, cette prise de distance avec la frénésie médiatique, avec les affres du quotidien. Il entend donner ou redonner une certaine majesté à la fonction présidentielle, assez proche de l'image qu'en avait le général de Gaulle. Et puis il y a aussi peut-être une autre dimension qui apparaît importante dans ce qu'est en train de mettre en place Emmanuel Macron. C'est l'admiration et à la fois la confrontation avec le modèle américain. On voit là, avec la réunion du Congrès, une imitation du discours américain sur l'état de l'Union, puisque ça devrait se répéter tous les ans. Et puis, il y a la confrontation, notamment cette leçon faite il y a quelques semaines au président américain Donald Trump, quand il lui a déclaré « Make our planet great again ». On peut peut-être voir là une véritable ambition d'Emmanuel Macron en termes de leadership sur le monde occidental.
Stéphane Robert, merci beaucoup. Donc on attend évidemment le discours du président tout à l'heure à 15h. Bonjour Jean-Louis Debré.
Bonjour.
Ancien président de l'Assemblée. Bah, vous avez dit que, déjà qu'il n'y avait rien de nouveau sous la Ve République avec cette initiative. Mais quand même, vous ne dites pas que le président Macron est un président normal tout de même.
Je ne sais pas ce que c'est qu'un président normal. Permettez-moi simplement quelques remarques. Un, depuis le début de la Ve République, chaque législature commence par un message du président de la République, lu par les députés, devant les députés et sénateurs, par le président de l'Assemblée et par le président du Sénat. Quelques messages. 1981, François Mitterrand dit « J'ai été élu sur mes 110 propositions, le Premier ministre qui est là va appliquer ces 110 propositions ». Il y a un Premier ministre qui n'a pas eu de message présidentiel avant. C'était Chaban, en 1974, pour des raisons particulières. Et ça a abouti à une réaction du président de la République Pompidou et le début de la brouille entre Chaban et Pompidou, parce que Chaban avait affirmé qu'il voulait être une nouvelle société sans en parler au président de la République. Donc les choses sont claires. Simplement, ce n'était pas le président de la République qui y allait, c'est la réforme voulue par Nicolas Sarkozy et la droite qui a fait que, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République et même au-delà, c'est le président de la République qui peut lire son message. Rien de nouveau. Alors, vous m'interrogez savoir que c'est qu'un président normal. Je ne sais pas ce que c'est qu'un président normal. Le président de la République, c'est quelqu'un qui a été élu au suffrage universel des Français, qui représente toute la France, tous les Français. Et même s'il veut être normal, il ne peut pas l'être dans la mesure où le regard des autres est différent. Vous n'êtes pas président de la République, je vous regarde avec beaucoup de respect, mais si vous étiez président de la République, je vous regarderais différemment, puisque vous incarnez
un pays. Je n'ai qu'un corps, effectivement. Jean-Louis Debré, est-ce qu'on peut parler un peu du fond maintenant, rapidement, sur cette attente que l'on a Jean-François Copé, par exemple, disait il faut qu'il choisisse continuer d'être dans les généralités ou bien annoncer des choses plus précises, dérouler un vrai programme, il faut qu'il sorte du flou. Vous attendez quoi précisément sur le fond du discours de...
J'attends simplement sur le fond deux choses. Puisqu'on est au début d'un quinquennat. Un, qui fasse l'état de la France. Et deux, qui dise voilà, j'ai pris des engagements et je vais les respecter. J'ai une légitimité, je suis l'élu du suffrage universel, vous avez été élu en majorité pour que mon programme soit appliqué, je vous confirme que le Premier ministre Édouard Philippe qui est là, il est chargé par moi, en vertu des institutions, d'appliquer ce que les Français ont voulu que j'applique.
Il va falloir qu'il dise un peu autre chose aussi, malgré tout, puisqu'il intervient de façon solennelle pour donner une vision générale aussi de
la propositions,
dont la France est conduite.
Voilà où on est et voilà où je veux qu'on arrive. C'est ça le fond de l'affaire. Et tous les messages présidentiels, tous, sans exception, c'est ça. Voilà la situation, voilà où je veux vous emmener.
Jean-Louis Debré, merci. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition parce qu'on parle de ce qui se passe par ailleurs. Pendant ce temps, en effet, la décomposition de l'ancien paysage politique se poursuit, en tout cas au Parti Socialiste. La décomposition est déjà bien avancée. Avant-hier, c'était au tour de Benoît Hamon d'annoncer son départ pour créer son propre mouvement. Ça s'est fait samedi. Pour l'ancien ministre socialiste Stéphane Le Foll, les élus vont devoir choisir entre le maintien au PS et l'adhésion donc au nouveau mouvement de Benoît Hamon, plutôt que d'essayer, dit-il, de cumuler les appartenances. Chez les Républicains, la querelle entre les constructifs et les opposants va se traduire concrètement sans doute demain par la division des voix lors du vote de confiance. Tandis qu'au Front National, la crise qui couvait depuis les déceptions de la présidentielle et des législatives, cette crise a éclaté vendredi avec la mise à l'écart d'une fidèle de Florian Philippot, un vice-président qui est désormais contesté ouvertement par une partie de la base militante, mais aussi de l'état-major. Antoine Marette, bonjour.
Bonjour.
Alors, l'ensemble des partis traditionnels, en fait, ont l'air de souffrir d'un même symptôme. C'est cette réinitialisation véritable de la vie politique qui a été induite par l'élection d'Emmanuel Macron.
Effectivement, Antoine, avec cependant des des nuances, au PS comme à LR, c'est le rapport à Emmanuel Macron qui est en apparence la ligne de fracture. Faut-il s'allier à son parti? Faut-il s'opposer à lui ou alors trouver une position intermédiaire en étant constructif? Ces questions divisent les deux partis. Mais derrière ces questions concrètes, c'est bien à chaque fois la ligne de ces partis qui est en jeu. Le rapport à Emmanuel Macron n'est que le symptôme de divergences idéologiques trop longtemps ignorées entre les frondeurs et les sociodémocrates au PS, c'est-à-dire le rapport au capitalisme, entre les centristes et les partisans d'une droite dure à LR, c'est-à-dire le rapport aux sujets sociétaux. Pendant ces années, ces questions de fond ont été étouffées au nom d'une logique électorale. Emmanuel Macron a cassé l'usine à élus que représentaient ces deux partis et du coup, les questions de fond resurgissent brutalement. Au Front National, bien entendu, le rapport à Emmanuel Macron ne fait pas débat, plutôt le rapport à la droite. Faut-il rester seul contre tous ou se diriger vers une union des droites? Mais là aussi, ce sont surtout des questions de fond qui divisent le parti après les déceptions électorales entre un souverainisme incarné par Florian Philippot en perte de vitesse et une ligne identitaire plus centrée sur l'immigration. On assiste donc bien à une recomposition du paysage politique français, ou plutôt pour le moment à une destruction d'un monde existant. La preuve de cette confusion, c'est l'existence de pas moins de 7 groupes à l'Assemblée nationale. C'est un record sous la Ve République.
Antoine Maret, merci. En Allemagne, Angela Merkel lance aujourd'hui sa campagne, 4e mandat. Le scrutin a lieu le 24 septembre et elle part favorite pour se succéder donc à elle-même. Cyril Sauvageau est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour. Alors
pour l'heure, on connaît vraiment que son slogan précisément, qui est « L'Allemagne, un pays où il fait bon vivre ». C'est sans doute un peu court comme programme, même si Mme Merkel a l'habitude de reposer beaucoup sur son bilan. On attend toutefois d'autres annonces cet après-midi.
Oui, la chancelière doit présenter à partir de 13h le programme de son parti, la CDU, avec son allié bavarois Horst Seehofer, le patron de la CSU. Ce programme, on en connaît déjà les deux grands axes, famille et sécurité. Les conservateurs veulent pouvoir à la fois rassurer leur électorat traditionnel et regagner les déçus d'Angela Merkel après la crise des réfugiés. Premier sujet, donc la sécurité intérieure. Face à la menace terroriste, la CDU veut renforcer les effectifs policiers, 15 000 nouveaux postes. Elle promet également de redonner des moyens à l'armée en maintenant l'objectif des 2% du PIB en dépenses militaires conformément aux exigences de l'OTAN. L'autre pilier du programme est plus social, baisse de l'impôt sur le revenu, augmentation des allocations familiales, soutien à la construction d'1,5 million de logements neufs pour contrer la flambée de l'immobilier. Bref, les chrétiens démocrates promettent beaucoup, peut-être parce que contrairement il y a encore 4 ans, lors de la dernière campagne, la CDU ne peut plus se reposer uniquement sur la popularité de la chancelière. Il va falloir livrer bataille, même si Angela Merkel semble très bien partie. Les sondages lui donnent jusqu'à 15 points d'avance. Et après une entrée en campagne tonitruante, Martin Schulz, son adversaire social-démocrate, cherche un second souffle. Les deux candidats s'affronteront le 3 septembre pour un seul et unique débat télévisé.
Cyril Sauvageau, merci beaucoup. En direct de Berlin, la décision française peut apparaître comme un défi au président et au Congrès américain qui veulent, on le sait, renforcer les sanctions contre Téhéran. C'est le groupe français Total qui signe aujourd'hui un accord de près de 5 milliards de dollars avec l'Iran. Total associé à une société chinoise, un accord qui prévoit le développement d'un important champ gazier. Et donc, la société française devient ainsi le premier groupe pétrolier occidental à revenir en Iran depuis le fameux accord nucléaire de juillet 2015. Hakim Kasmi.
Oui, on doit un. Alors, ce retour s'explique par plusieurs raisons. Total n'avait pas vraiment de concurrence sérieux face à lui, car malgré la levée des sanctions, eh bien, les grands groupes internationaux, eh bien, sont très frileux vis-à-vis de l'administration américaine. D'autant que Donald Trump voudrait imposer de nouvelles sanctions à Téhéran. Mais Total l'a aussi emporté grâce à sa fidélité avec l'Iran. Malgré l'embargo, eh bien, le pétrolier qui a dû arrêter ses activités commerciales a tout de même gardé le lien, ce qui a été très apprécié par Téhéran. Mais au-delà de ses considérations, Total avait aussi un avantage non négligeable, car elle connaît parfaitement ce gisement gazier de part sud, puisqu'il l'exploite déjà pour le Qatar. Car il faut savoir que ce champ gazier, eh bien, est partagé en deux, une partie au Qatar et une partie en Iran. À cela, il faut ajouter aussi l'aspect technique. Avec les sanctions, les équipements et les infrastructures pétrolières iraniennes devenaient obsolètes, elles ont plus de 30 ans. Enfin, Téhéran manque de devises. Le pays a toujours la moitié de ses avoirs bloqués à travers le monde, soit environ environ 50 milliards de dollars. Mais Total ne sera pas seul sur ce projet. Il sera associé avec un pétrolier chinois qui détiendra 30% des parts. La Chine qui a toujours été l'un des plus gros clients de Téhéran dans le secteur pétrolier, car il faut se souvenir que malgré l'embargo, l'Iran pouvait exporter son pétrole en Asie et il exportait notamment une grande partie de son pétrole au Japon et à la Chine. L'Iran, qui a la deuxième ressource de gaz au monde, espère pouvoir exploiter son champ d'ici 2021, aussi bien pour le marché intérieur que pour le marché international. En attendant, cet accord et ce rapprochement entre l'Iran, la Chine et le Qatar ne devraient pas laisser indifférent l'Arabie Saoudite au vu des tensions actuelles, car il faut rappeler que l'Arabie Saoudite, c'est l'ennemi juré à la fois de Doha, mais aussi de l'Iran.
On reste dans le sujet, Hakim, puisqu'on évoque maintenant cette crise diplomatique entre le Qatar et ses voisins sunnites. L'ultimatum de 10 jours qui avait été fixé par l'Arabie Saoudite a expiré hier. Doha, jusqu'ici, semble rejeter, en tout cas implicitement, ses demandes de ses adversaires, qui exigent notamment la fermeture de la télévision Al Jazeera et d'une base militaire turque dans l'Émirat, ainsi que la réduction aussi de ses relations avec l'Iran. Après-demain, mercredi, il y aura une nouvelle réunion. Les ministres des Affaires étrangères des 4 pays signataires de ces demandes vont se réunir au Caire, faire, disent-ils, un point, décider des démarches ultérieures. On est en ligne avec Antoine Basbous. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que le Qatar va pouvoir résister à la pression comme ça de ses grands voisins?
Il ne pourra pas non plus se rendre en rase campagne face à un ultimatum. C'est pourquoi les médiations, que ce soit koweïtiennes en première ligne ou encore occidentales, américaines, britanniques, françaises, vont essayer de rapprocher les points de vue pour sauver la face au Qatar. Mais le Qatar est obligé de céder, de trouver une solution parce que il est vulnérable. Les chantiers, les infrastructures du chantier de la Coupe du Monde 2022 sont au ralenti, ils ne pourront pas tenir leurs engagements. Le Qatar est isolé et il est soumis à une grande pression et il va devoir sauver. Ses amis doivent l'aider à sauver la face, mais sur le fond, le Qatar est obligé, il est contraint de faire des concessions.
Il a voulu aller trop loin finalement dans son influence, rappelons que c'est évidemment un tout petit pays.
Oui, il a mené une politique très contradictoire, parfois schizophrène. Il a donné aux États-Unis la plus grande base en dehors du territoire américain et en même temps, il a prêté Al Jazeera à Al-Qaïda pendant longtemps. Il a déstabilisé ses voisins. Les Saoudiens ont diffusé un enregistrement entre l'ancien émir, le père de Tamim, qui parlait avec Kadhafi et avec le président yéménite pour déstabiliser l'Arabie. Le Qatar n'avait pas démenti ses enregistrements téléphoniques. Bref, le Qatar a mené une politique déstabilisatrice par rapport à ses voisins. C'est une grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf et qui intervenait en Libye, en Tunisie, en Égypte, en Palestine. Bref, il exploitait ses moyens financiers pour faire une politique contre ses voisins alors qu'il fait partie du Conseil de coopération du Golfe, c'est-à-dire ce club de monarchie qui devait théoriquement être solidaire.
Alors, une toute dernière question rapidement, sans ouvrir le dossier régional, bien sûr, Antoine Basbous, qu'est-ce que cet épisode dit toutefois de l'évolution des rapports de force, on le voit en cours dans la région?
Écoutez, pour l'instant, il y a un élément, c'est que l'Iran a étalé sa puissance, son hégémonie à l'échelle régionale, mais l'arrivée de Trump et sa visite en Arabie, qui a été payée en quelque sorte 10 milliards de dollars l'heure de présence, eh bien ça a en quelque sorte contrebalancé la puissance iranienne. Et maintenant, avec le renouvellement du parapluie américain par rapport à l'Arabie post-11 septembre 2001, eh bien, ça introduit une nouvelle donne et ça donne un avantage à l'Arabie qui peut aujourd'hui s'appuyer sur Washington, sur Trump en tout cas, à Washington, pour regagner de l'influence régionale.
Antoine Basbous, directeur de l'Observatoire des pays arabes, merci beaucoup d'avoir accepté d'être en ligne avec nous. Et on revient vers notre invité, donc Jean-Louis Debré. Jean-Louis Debré, bon, votre père, on le sait, c'est l'un des rédacteurs de cette Constitution. Est-ce qu'elle est en train d'évoluer ou est-ce qu'au contraire, on revient finalement aux fondamentaux de la Ve République?
Si vous me permettez, je voudrais juste préciser l'excellent édito d'Antoine Marais. D'abord, il y a un fait qui est clair. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, la première fois depuis 1958-59, aucun des deux grands partis, de droite et de gauche n'étaient présents au second tour. C'est la première fois. Jamais on avait vu ça. Ça montre bien le déclin. Alors, pour expliquer ce qui se passe, il y a plusieurs choses. D'abord, pour la première fois dans l'histoire politique française, ni à droite ni à gauche, il y a un patron. Il y a un leader qui est considéré... à droite, il n'y a plus personne. À gauche, il n'y a plus personne.
Mélenchon ?
C'est pas la gauche. Il s'est mis à l'extrême gauche. Mais à gauche, il n'y a plus de patron. Et c'est accru par les règles de financement de la vie politique qui incitent tous les partis à avoir des candidats. Tous. Puisque vous recevez des subventions en fonction du nombre de candidats que vous présentez, et si vous avez quelques candidats, si vous avez un groupe, vous avez encore des avantages. Et donc on est rentré dans un mécanisme qui est en train de tuer l'organisation partisane entre la droite et la gauche par des incitations financières. Si vous avez eu aux dernières élections, dans certaines circonscriptions, 10, 15 candidats, c'est pas parce qu'il y avait 10 ou 15 personnes qui voulaient être candidats, c'est parce que derrière ça, il y a des subventions et il y a des candidats qui ne faisaient même pas éditer leur bulletin de vote. Donc, on est dans une situation nouvelle. Alors, un, c'est pas totalement nouveau. Parce qu'en 1959, avec le retour au pouvoir du général de Gaulle, mais il y avait un patron. On a vu un chamboulement total de l'Assemblée nationale. Mais c'est pas totalement nouveau. En 1981, un chamboulement total de l'Assemblée nationale. Mais il y avait un patron,
mais là, il y a
François Mitterrand.
Là, il y a un patron, quand même.
Mais il ne se situe pas dans les partis traditionnels, qui sont désespérés. Tout leur échappe. En plus, le clivage droite-gauche n'est plus lisible.
Alors, est-ce qu'il va redevenir lisible à un moment donné, ou est-ce qu'on passe complètement à autre chose?
L'histoire...
Ou est-ce que les choses vont revenir à leur place?
Moi, je suis persuadé que on va à une nouvelle donne. C'est les conservateurs et les modernes qu'on a connus dans le passé. Alors, dans les conservateurs, il y aura aussi bien des gens de gauche que des gens de droite. Et dans les modernes, il y aura aussi bien des gens de droite, de gauche que de droite. Et ce qui se passe à l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est la conséquence de la décomposition des partis. On l'a vu avec les Républicains. Ils ont été élus Républicains, ils ne savent plus où ils sont. Ils ne savent plus où ils sont. Alors vous avez les réponses.
Alors ça veut dire que je crois simplement,
permettez-moi, Macron dans les 6 mois, pas plus, réussit ou donne le sentiment de réussir. C'est-à-dire que la France a bougé, c'est-à-dire qu'il y a eu des réformes, c'est-à-dire qu'il y a une stagnation ou une diminution du chômage, une reprise des investissements, et alors à ce moment-là, le reclassement, il se fera
très facilement. Vous êtes conservateur ou moderne, vous?
Moi, je suis totalement moderne, je voudrais qu'on change les hommes de manière considérable. Et je voudrais qu'on fasse un peu ce que j'ai fait, se retirer de la politique avant qu'il ne soit trop tard.
Est-ce que la Ve République, je reprends ma question, est en train d'évoluer, ou est-ce qu'on revient finalement à ce qu'elle était plutôt finalement au début?
Dans un premier temps, on l'a cassée, on l'a abîmée, et maintenant, on revient vers une lecture des institutions qui était une lecture conforme à ce que voulaient les constituants. Quand je vois dans le titre d'un journal l'hyper-président, mais on devrait regarder tous les journaux depuis 1959, c'est tous les mêmes titres. Et souvenez-vous, le domaine réservé du général de Gaulle, souvenez-vous, Chirac qui dit « je décide, il exécute », souvenez-vous, tous, les institutions ont permis, peut-être le rappeler à ceux qui veulent tout modifier, les institutions de la Ve République, qui ont succédé aux institutions de la Quatrième, où il y avait un gouvernement tous les 7 mois, où le président de la République n'avait aucun pouvoir, il inaugurait les chrysanthèmes, les institutions de la Ve République ont permis l'alternance politique, la cohabitation politique et l'affrontement de la France, ou la confrontation de la France à des grandes crises internationales. C'est ça la Ve République.
Jack Lang dit qu'il faut finalement peut-être penser à supprimer le poste de Premier ministre.
Ben oui, puisqu'il ne l'a pas été.
Jean-Louis Debré, vous avez dit que c'était...
Alors, là aussi, regardons l'histoire, permettez-moi de vous dire. Mais remontons même au cardinal de Richelieu. C'est une autre époque, qui a écrit la théorie du principat en disant qu'il fallait un principal ministre. Et le président du conseil antécédent du Premier ministre, s'est progressivement imposé dans la vie politique française depuis 1946, car il fallait un coordinateur et quelqu'un qui puisse rassembler les ministres.
Alors, il y a quelque chose qui vous a gêné quand même récemment, c'est quand le président de l'Assemblée a dit « je suis là pour 2 ans et demi ».
Oui, parce que le président de l'Assemblée, il doit respecter...
Pourquoi ça serait
pour
pas,
deux raisons.
C'est pas moderne, ça?
Enfin, ce qui est moderne, c'est respecter les institutions et respecter la Constitution. Je suis juriste. Vous ne pouvez pas décider de ne pas appliquer les institutions, premièrement. Deuxièmement, pourquoi, alors que toutes les instances de l'Assemblée nationale sont changées chaque année, pourquoi on a voulu que le président soit là pour la durée? C'est pour lui permettre de faire des réformes. Je vais prendre juste un petit exemple, le Conseil constitutionnel. Quand je suis arrivé, il rendait 10 décisions par an du contrôle de la loi, quand je l'ai quitté, 140. On l'a changé. Pourquoi? Parce que j'avais la durée pour imposer aux conservateurs des réformes.
Vous allez voter? Vous voteriez, pardon, la confiance, vous, au gouvernement?
Mais
demain Juste oui ou non?
Mais oui, a priori.
Donc vous êtes un constructif?
Non, je suis un réaliste. La France, je vais faire tout du politique. Grâce à M. Macron, nous avons évité d'avoir en France Mélenchon ou Le Pen au second tour. Eh bien, là, nous avons un impératif, c'est que la France réussisse pour éviter la venue au pouvoir des extrémistes.
Merci beaucoup Jean-Louis Debré. Je renvoie donc à votre livre « Dictionnaire amoureux de la République » paru en début d'année. C'est édité chez Plon. La météo annonce le retour du soleil sur la plupart des régions, des températures en hausse, 20 à 32 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal, 18h, Tara Schlegel.